Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, avant de commencer, je suis sincèrement désolée, ce podcast arrive tardivement parce que, j'ai perdu mon fichier, c'était compliqué, j'ai été hospitalisée, voilà. Je vous explique tout sur ma chaîne YouTube, mais en tout cas j'ai perdu le fichier et du coup je le fais que maintenant. Du coup, donc, je pense que je vais le publier aujourd'hui. On est le 14 août, donc j'espère que j'aurai le temps de le publier aujourd'hui. Passons du coup à l'histoire d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire qui fait la une des médias américains depuis 2-3 semaines. Nous allons parler de la disparition de Rudy Farias. Alors, Rudy ou Rudolph Farias est né le 1er octobre 1997 à Houston, au Texas, et il est le fils de Gianni Santana et Rodolfo Farias, un agent de police de Houston, au Texas. Rudy avait un demi-frère nommé Charles Uresti, que sa mère a eu du coup d'un premier, du premier de ses huit mariages. Ouais, du premier de ses huit mariages, désolé. Mais ça me fait rire, je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Et apparemment, Charlie et Rudy étaient très très proches, ils étaient best friends, t'es mon grand frère, je suis ton petit frère, ils étaient gravement proches. Malheureusement, Charlie est décédé le 13 février 2011, à 21 ans seulement, d'un accident de moto. Et apparemment, sa mort a brisé son petit frère Rudy, qui va développer du coup un syndrome post-traumatique, mais aussi une dépression sévère. Donc, malgré tout ça, Rudy va continuer sa vie, il va continuer à vivre jusqu'en 2014, où son père, qui était officier de police, va se suicider non loin du poste de police. Là, en fait, la charge mentale de Rudy s'est encore vachement alourdie et ça se remarquait en fait de plus en plus physiquement. On atterrit donc le 6 mars 2015. Ce jour-là, aux alentours de 18h30, Rudy est sorti du coup pour promener les deux chiens de la famille. Le problème, c'est que les chiens vont rentrer seuls sans Rudy et du coup, la famille va commencer à s'inquiéter parce que comment tu vas promener les chiens au parc et que les chiens rentrent seuls et toi t'es où, ils vont commencer à s'inquiéter et ils vont aller au parc, ils vont se rendre au parc où Rudy était censé se rendre avec les chiens, et dans le parc ils vont retrouver à un endroit spécifique son portefeuille et son inhalateur, mais il n'y avait aucune trace du jeune homme. Donc ils vont passer la nuit en fait à le chercher jusqu'au lendemain. Le lendemain, sa mère va aller du coup déposer un avis de disparition et va déclarer la disparition de son fils. On est donc le 7 mars 2015. Donc après que la mère ait déclaré la disparition de son fils, une enquête a débuté et tout le monde s'est immédiatement impliqué. Ils ont commencé à le chercher. La police a mis les moyens, les bénévoles ont mis les moyens. Il y avait en fait un élan de solidarité. Tout le monde s'est mis à le chercher. La mère de Rudy va aller jusqu'à créer une page GoFundMe. C'est une cagnotte en ligne du coup pour financer les recherches, c'est-à-dire par exemple pour payer les panneaux pour afficher la photo de Rudy et le numéro à contacter au cas où en fait on le voit, des trucs comme ça. Donc c'était ce qui se passait depuis 2015 jusqu'à cette année. Donc depuis 8 ans, la famille entière est à la recherche de Rudy. Le truc c'est que un miracle s'est produit cette année. C'est franchement, 2023 c'est l'année des miracles, c'est une dinguerie. Le miracle qui s'est produit est tout simplement que le 29 juin 2023, Rudy a été retrouvé inconscient près d'une église de la ville où il a disparu, c'est-à-dire pas loin en fait du domicile de sa mère et de sa grand-mère. Donc la nouvelle a explosé partout dans les médias, partout tout le monde était content. Oh là là, quel miracle, on le retrouve après 8 ans, c'est une dinguerie, tout le monde était olé olé. Et en fait, dès qu'on l'a retrouvé, Je voulais faire en fait un podcast, une vidéo sur cette histoire, mais je me suis dit, bon, peut-être que on va en apprendre davantage sur l'endroit où il était détenu, que l'enquête va mener à quelque chose. Donc je me suis dit, bon, je vais attendre un peu pour voir en fait ce que on va découvrir. Franchement, j'ai eu raison d'attendre parce que ce qu'on a découvert, c'est une dinguerie. C'est une grosse, grosse dinguerie. Donc la police, ils ont attendu du coup que Rudy reviennent à lui à l'hôpital pour l'interroger, et c'est là en fait que l'histoire devient un truc de malade parce que Rudy va leur apprendre qu'il est retourné chez sa mère le lendemain de sa disparition, c'est-à-dire il est retourné chez sa mère le 7 mars, du coup, et sa mère a choisi de continuer à mentir à la police sur la disparition de son fils. Il a raconté qu'elle le manipulait psychologiquement et que après la mort de son frère et de son père, sa mère était la seule personne qui lui restait, qu'il ne voulait pas la perdre, donc il s'est senti un peu obligé en fait de l'écouter. Donc comme elle lui a dit de se cacher et de faire comme s'il avait disparu, bah en fait il a juste suivi ce que sa mère lui disait. Notez qu'à l'époque, Rudy avait 17 ans. 17 ans. Yeah. Notez que la maison dans laquelle il vivait du coup avec sa mère, sa grand-mère, enfin il partageait la maison avec sa grand-mère, et comme la grand-mère était malade et elle souffrait aussi de démence, bah elle ne posait pas problème, elle pouvait dire aux gens qu'elle avait croisé Rudy à midi, bah personne n'allait la croire en fait parce que bah elle souffrait de démence. Et en fait, les seuls moments où ça se complique, c'est quand la famille venait à la maison. Du coup, là la mère de Rudy l'obligeait à se cacher dans sa chambre jusqu'à nouvel ordre, et Rudy va raconter que ça lui faisait du mal en fait d'entendre les membres de sa famille rire sans lui, continuer à vivre leur vie sans lui. Franchement, je sais pas ce que cette femme a à la place du cœur, mais c'est cruel en fait de faire endurer ça à son enfant. Enfin, bref. De plus, Rudy, vu qu'il a été enfermé pratiquement 8 ans, il a développé en fait des limites au niveau de sa manière de communiquer avec les autres. Et il racontera aussi que pendant les 8 ans en fait qu'ont duré sa disparition, bah il a eu plusieurs contacts avec la police, par exemple quand il était en voiture avec sa mère à des moments et que sa mère se faisait contrôler par la police, enfin sa mère lui disait de donner un faux nom et un faux prénom, et comme c'est pas lui qui était au volant de la voiture, bah forcément bah ça ne posait pas du tout de problème. Donc les policiers n'avaient pas à vérifier son identité, ils checkaient juste l'identité du conducteur, son permis, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, mais en tout cas il a raconté qu'il a eu plusieurs contacts avec la police, donc il a eu plusieurs occasions en fait de se libérer de cet enfer, mais il était tellement sous l'emprise de sa mère que en fait il n'y arrivait tout simplement pas, en fait il n'y arrivait pas du tout. Rudy racontera aussi que l'un des arguments que sa mère utilisait pour le garder enfermé, c'est que elle lui a raconté qu'il allait partir en prison parce qu'il avait une contravention. Je sais pas qui va en prison pour une contravention, mais en tout cas c'est ce qu'elle va lui dire. Donc ça va le motiver lui à rester caché du coup parce qu'il voulait pas finir en prison. Et toujours selon Rudy, elle ne l'obligeait pas physiquement à rester enfermé, mais c'était du coup, comme je l'ai dit précédemment, une emprise psychologique. Aujourd'hui du coup, Rudy a été pris en charge par les services adaptés, et il ne souhaite plus du tout avoir aucun contact avec sa mère. Et franchement, je comprends totalement, elle lui a volé 8 années de sa vie, presque une décennie. Yeah, you go Rudy, you go. Donc, le truc, c'est que au moment en fait où on s'attendait que bah cette histoire allait partir en procès, parce que on s'attendait au fait que cette femme soit inculpée pour avoir fait gaspiller les moyens financiers, le temps des policiers, le temps et les moyens financiers du système judiciaire, bah en fait le système judiciaire a décidé de ne pas du tout l'inculper. Donc elle s'en sort tranquillement, et ça m'agace, mais je comprends pourquoi. Je comprends en fait. Faut noter que Rudy, quand il a disparu, il avait 17 ans, et à partir du moment où il a eu 18 ans, il est devenu complice en fait de sa mère. Donc à partir du moment où on va inculper sa mère, le procureur va être obligé d'inculper Rudy. Et est-ce que en fait ça vaut le coup d'en rajouter à ce qu'il a déjà vécu? Je ne pense pas du tout que ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que je comprends, même si ça m'agace que cette femme soit s'en sorte, mais bon, franchement, j'espère que la justice l'aura sur un autre dossier. J'espère qu'elle va faire quelque chose qui va permettre à la justice de la mettre derrière les barreaux. Mais franchement, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire vraiment de dingue. Déjà, après, vu le parcours en fait de cette dame, ça ne m'a pas du tout choqué en fait ce qu'elle a fait à son fils. Ses ex-maris l'ont tous catalogué en fait de bigamiste. J'ai appris un nouveau mot du coup. Apparemment, une bigamiste, c'est une personne en fait qui se marie sans que son précédent mariage ne soit annulé ou sans avoir divorcé de son précédent mariage. Donc elle était une bigamiste en fait. Donc elle a eu, comme je l'ai dit précédemment, 8 mariages environ. Il y en a plusieurs en fait qui étaient simultanés en mode elle n'était pas encore divorcée, elle s'est mariée, donc il y en a qui sont annulés. Enfin, sa vie, c'est un beau bazar. C'est n'importe quoi. De plus, à un moment donné, elle est allée jusqu'à se déclarer comme étant l'épouse d'un monsieur, alors qu'en fait, il se disait à peine bonjour. Oui, oui. Enfin, elle était adepte de la fiction aussi, je pense. Donc, enfin, c'est n'importe quoi la vie de cette femme, franchement. Pour moi, c'est une personne qu'on qualifierait en fait de attention whore. Ça veut dire putain attention, en quelque sorte. Enfin, j'espère que mon podcast n'aura pas de problème, vu que je dis ce mot-là. Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est une personne qui a besoin d'attention à tout prix et qui crée en fait des situations pour en obtenir. Cette histoire de la disparition en fait de son fils, elle l'a inventée en fait pour elle-même, tout simplement. Elle a aimé l'attention qu'elle a obtenue les premières heures en fait qu'ont duré la disparition de son fils, et elle s'est dit pourquoi ne pas continuer à en avoir du coup, et quel était le moyen pour obtenir en fait l'attention à l'échelle nationale comme elle le voulait. C'était que son fils continue à être porté disparu, tout simplement. Donc elle a décidé en fait de cacher son fils pour qu'elle puisse avoir de l'attention. C'est une véritable attention whore, et l'une de ses nièces va aller jusqu'à affirmer, je cite, « J'ignore comment elle a fait pour se trouver des maris dans sa vie. » Bref, pour en revenir à son problème d'attention, en fait, pour moi, elle avait tellement besoin d'attention qu'elle était prête à sacrifier, en fait, la vie de son fils pour en obtenir. Et à ce stade-là, en fait, c'est psychologique, en fait. Enfin, ça devient psychologique. Faut l'enfermer dans un centre psychiatrique. Si j'étais un membre de sa famille, j'aurais tenté le coup. J'aurais essayé, en fait, de l'enfermer dans un centre psychiatrique. Je sais pas si j'aurais réussi, mais j'aurais tenté le coup, parce que ce genre de personnages, ils sont prêts à tout pour qu'on cite leur nom en fait dans les médias ou des trucs comme ça, et on ignore en fait ce qu'elle peut faire demain juste pour revoir son nom dans les médias. Bref, cette histoire, c'est n'importe quoi. Il y a des gens, faut leur interdire d'avoir des enfants à ce stade-là. Quand je vous dis que il faut passer des tests psychologiques avant qu'on t'autorise à avoir des enfants, personne ne veut m'écouter. Faut interdire à certaines personnes d'avoir des enfants, parce que c'est plus possible en fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils oublient en fait que les enfants, c'est des vrais êtres vivants. Enfin, même les animaux, c'est des vrais êtres vivants. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas. C'est n'importe quoi. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.